Le désert est indescriptible. La réalité s'y engouffre, lumière rapide. Le regard fond. Pourtant, ce matin, très jeune, je pleurais déjà sur l'humanité. À chaque nouvel an, je le voyais se dissoudre dans l'espoir et la violence. Très jeune, je prenais la météore de ma mère et j'allais vers le désert. J'y passais des journées entières, des nuits, des aubes. Je roulais vite et puis au ralenti, je filais la lumière dans ces mauves et petites lignes qui, comme des veines, dessinaient un grand arbre de vie dans mon regard. J'étais alerte dans le questionnement, mais il y avait en moi un désir qui, sans obstacle, m'effrayait comme une certitude. Puis venaient le rose, le roux et le gris parmi les pierres, le mauve et la lueur de l'aube. Au loin, les ailes étincelantes d'un hélicoptère à touristes.
Je présume que le jour se lève à plusieurs endroits. Et parce que cette pensée me vient au milieu de la réalité et de ses pauses innommables, j'ai, pour témoigner du temps et des langages mobiles, recours à cette pensée que rien n'est trop lent ni trop bref pour l'univers.
Très jeune, je fus sans avenir, comme la baraque du coin qui fut un jour incendiée par des gars, venus de loin, disait ma mère, qui leur avait servi à boire. Un seul d'entre eux était armé, m'avait-elle juré. Un seul parmi eux. Tous les autres étaient blonds. Ma mère parlait toujours des hommes comme s'ils avaient vu le jour dans un livre. Elle n'en disait pas plus et s'en retournait devant son téléviseur. Je voyais son profil et le reflet du petit peigne en argent qu'elle portait toujours dans ses cheveux et auquel j'attribuais un pouvoir magique. Son tablier était jaune avec de petites fleurs. Je ne l'ai jamais vue portant une robe.
Elle ne saura jamais pourquoi tout son être s'est enfoncé dans un livre. Pourquoi, pendant 2 ans, elle s'est brisée, s'est allongée dans les pages de ce livre écrit par une femme dont elle ne sait rien. Sinon, la preuve présumée d'une existence recluse dans le temps et l'espace franchi d'un seul livre.
J'avançais dans la vie, les yeux fous d'arrogance. J'avais 15 ans. C'était un délice, comme un pouvoir de mourir ou de s'enfoncer dans la nuit des cernes autour des yeux, des espaces absolument délirants à proximité du regard.
En somme, ce livre était innocent. Il reposait, mince tranche de papier, entre les appuis-livres. C'était un matin de décembre, d'une blancheur spectrale qui érodait les objets. Elle pensait lenteur en soustrayant du regard le livre à son équilibre. Et il basculait, soulevant dans le ralenti du silence le lancinant désir qui ne la quittait pas. À l'horizontale, le livre ressemblait à une pierre tombale, un nom, un titre et l'éclat de la couverture. L'univers était un risque. Elle était une présence minimale, un espace embué devant la fenêtre, un jalon peut-être, entre ce livre et son devenir dans une autre langue, c'était précisément à voir.
Je prenais souvent la route, bien avant d'avoir mon permis de conduire. En plein soleil, au crépuscule et même la nuit. Je partais pendant que ma mère me criait des mots aigus qui se perdaient dans la poussière du stationnement. J'ai toujours pris la route du désert, car très jeune, je voulais savoir pourquoi dans les livres on oublie de mentionner le désert. Je savais que ma mère serait seule comme une femme peut l'être, mais je fuyais le reflet magique du peigne dans ses cheveux, cherchant les reflets brûlants du soleil aveuglant, cherchant la nuit dans les yeux éblouis des lièvres, une lueur de vie. À moi la confrontation de l'aridité, et j'appuyais sur l'accélérateur, folle de la maudite énergie de mes 15 ans. Un jour j'aurai l'âge et le temps nécessaire comme une date de naissance pour en finir avec la vie. Un jour je serai fast, sharp, so sharp. Un jour j'aurai devant la nécessité de l'aube tout oublié de la civilisation des hommes qui venaient dans le désert voir éclater leurs équations comme une humanité. Je roulais vite, seul comme un personnage émondé de l'histoire. Je disais... Tant de fois j'ai sombré dans l'avenir.
Il y avait maintenant plus d'un an que Maud Lorès préparait son manuscrit. Ce matin, le ciel était bleu. Deux ou trois nuages, petites nuances au loin. Maud Lorès ouvrit le réfrigérateur, se servit un coke. Puis elle eut envie de partir, de prendre la route vers Québec. Le fleuve serait beau et grand sous la lumière crue de mars. Maud Lorès retourna à sa table de travail, prit le livre, enleva l'élastique qui retenait les pages décollées. Toutes les pages étaient annotées. Ici le bleu, polysémie, le vert, piste sonore, le rouge à vérifier, le noir incompréhensible, le jaune familier, le rose quel genre, le mauve quel temps. Dans les marges, des attentions qui pouvaient passer pour des remarques à la mine, parfois un dessin pour faciliter la représentation.
La nuit, il y avait le désert. Les yeux luisants des lièvres antilopes, les fleurs de sénita qui ne s'ouvrent qu'à la nuit. Il y avait, sous les phares de la météore, le corps gisant d'une humanité qui ne connaissait pas l'Arizona. L'humanité était fragile parce qu'elle ne soupçonnait pas l'existence de l'Arizona. So fragile. J'avais 15 ans. Et je désirais que tout soit comme en la fragilité de mon corps, cette tolérance impatiente qui rend le corps nécessaire. J'étais experte au volant, les yeux fous en pleine nuit. J'étais capable dans le noir d'avancer. Je savais tout cela comme un désespoir pouvant m'affranchir de tout. L'éternité était une ombre dans la musique, une fièvre du cerveau qui le faisait basculer dans le décalque des autoroutes. L'humanité était fragile, gigantesque espoir suspendu au-dessus des villes. Tout était fragile, je le savais, je l'avais toujours su. À 15 ans, je faisais semblant d'avoir oublié la médiocrité. Tout comme ma mère, je prétendais que rien n'était sali.
à cette heure tardive, quand la mémoire a peur de ses bonds et que les nerfs, au milieu du désir, sont comblés de réponses, je sais que tout n'est pas dit. Je sais que la lumière, quand elle fracture l'ombre, ranime en moi le respect de l'ombre et de la lumière. Je sais que débordant dans l'air d'énergie, la vie qui est mienne m'engage au loin à souffler de près dans ma main les images longues de la nécessité et du sentiment, les belles brèches sur fond de rêve et d'identité.
L'ombre sur la route dévore l'espoir. Il n'y a pas d'ombre la nuit, à midi. Il n'y a que certitude qui traverse la réalité. Mais la réalité est petit piège, petite tombe d'ombre qui accueille le désir. La réalité est un petit feu de passion qui prétexte. J'avais 15 ans. Et de toutes mes forces, j'appuyais sur mes pensées pour qu'elles penchent la réalité du côté de la lumière.
Je sais que tout n'est pas dit, parce que mon corps s'est installé avec un certain bonheur dans cette pensée, et que parmi la secousse inexplicable qui des mots fait trajet, eau vive et étend la soif, je peux, en liant les voyelles, et le dos des pensées me rapprochait, les yeux bridés de fascination, de la mort et de son contraire.
Un soir, je pus enfin voir cette Angela Parkins dont ma mère parlait souvent. Elle devait avoir 40 ans. Elle était géomètre et venait ici tous les premiers mardis du mois. Elle s'assoyait au bar et discutait toujours avec deux hommes dont ma mère disait qu'ils étaient ingénieurs. Ce soir-là, je m'installai au bar, espérant surprendre une conversation qui puisse dénouer le mystère que ma mère avait créé autour d'Angela Parkins. Mais on parla en détail de structure et de perspective avec des mots dont la plupart m'étaient inconnus. Puis Angela Parkins se tourna vers ma mère et lui fit un brin de jasette en employant cette fois-ci des mots simples qui résonnèrent en moi savoureux et colorés comme une chose intime. La soirée se poursuivit comme à l'habitude jusqu'à ce que Angela Parkins élève la voix, hystérique, au bord de l'ivresse. Sa voix s'emporta, culbuta dans l'espace en fumée. Angela Parkins quitta le bar avant 11h et je me retirai à la même heure. La réalité avait un sens, mais lequel? Le lendemain, j'avertis ma mère de mon départ pour le Nouveau-Mexique. J'avais téléphoné à Gracie, une cousine qui habitait à Albuquerque, et elle m'avait invité pour quelques jours.
À cette heure tardive, je sais que la vie peut confirmer le silence, incendier les approbations, tracer des larmes circulaires et la poussière enfantée. Et j'aime qu'il en soit ainsi, car j'ai appris à regarder entre juillet et octobre tous les incendies, à m'imbiber de la forte odeur de la nudité, de la splendeur des mauves, des façades, et des sonnets étrangers qui gesticulent dans la langue, comme nous le faisons la nuit, en rêvant pour ne pas mourir sans voix.
J'avais roulé toute la nuit. Tucson n'était qu'à quelques kilomètres, mais je n'étais pas encore prête à retrouver la peur panique. Je m'arrêterai à ce motel tenu par une amie de ma mère. Je dirai ma fatigue et mon besoin de dormir. Elle m'offrirait une chambre. Je retournerai à la météore pour prendre mon sac, Dans la boîte à gants, le revolver serait chaud. Je prendrai mon cahier et le stylo. Tout l'avant-midi, j'écrirai. Le climatiseur serait bruyant. Tout autour de moi, la réalité, le rideau transparent, la couleur des murs, une aquarelle superflue, un téléviseur, mon corps immobile devant le miroir. J'aurais l'impression d'une ultime compréhension de la nuit, du désert et des hasards intimes qui se succèdent en nous comme une loi de la réalité. Ma main serait lente. L'humanité ne pourrait pas se répéter. J'existerais alerte dans le questionnement.
Maud Laurès mit ses lentilles, s'apprêta devant le miroir. Elle eut soudain le sentiment qu'elle allait bientôt n'être qu'un instrument de résonance. Elle se vit tour à tour lyre, théorbe, viol. Le mauve se décomposa, fut recomposé par l'inceste dans ses yeux, un air. Elle ouvrit le tiroir, en sortit une chemise blanche, s'habilla, regarda un peu de réalité par la fenêtre, confondit dans sa tête ce révolté et revolver, retourna devant le miroir, mit un peu de rouge sur ses lèvres, puis alla s'installer devant le téléviseur silencieux, alluma un petit cigare.
Le bar commence à se remplir. C'est un jeudi soir. Beaucoup de touristes et d'accents. Quelques habitués qui viennent directement s'asseoir sur les tabourets en demi-cercle autour du comptoir. Je connais tout ça. Le désert dénoue toutes les intrigues, y compris celles qui, derrière les yeux, sollicitent à l'horizon l'humanité invisible. Dans le désert, on ne survit pas sans ses 15 ans. Il faut toujours être prêt à tout. Imaginer des cascades, des torrents, la pluie, arrêter le soleil et inverser les probabilités dans le désir. Ici, dans le bar du Red Arrow Motel, le désert n'existe pas vraiment. Seule la soif qui disperse les désirs, petits débris dans l'âme. J'ai grandi dans le désert, et je n'ai de mérite à l'aimer qu'en la solitude qui me préserve de l'immonde. L'homme à l'accent vient d'entrer. Il fait un petit signe de la tête en direction de la table où sont assises les femmes de la piscine. Je commande une bière. La propriétaire répète, comme pour elle-même, que je dois sans doute avoir 19 ans maintenant. Elle salue les nouveaux arrivants d'un air qui tout à la fois accueille et discipline. La musique est trop forte. Quelques couples dansent. Tauromachie des corps souples et des peaux bronzées. Au fond de la salle, l'homme mince s'est appuyé sur le mur et il fume.
Le lit était douillet. Elle se réveilla à midi, furieuse contre elle-même, comme si elle eût été une coulure noire dans la lumière. L'affiche du Sonora était en fleurs, les chemises pêle-mêle sur la table, des coupures de journaux, des fiches et des définitions, comme autant de déflagrations dans le consentement. Maud Laurès se leva, entrouvit les rideaux. Le jour rutilant entra dans sa tête. Elle se pencha, ramassa une enveloppe, pensa que l'horizon était comme un grand nu de femme bien tentant pour les yeux. Puis elle recommença, comme à tous les jours, penchée au-dessus de sa table, l'œil strict et la main tendue vers les mots qui pouvaient être rescapés du désert, à patrouiller l'espace imaginaire de Laure Angstel. Elle pensa « Cela frôle le vide ». Eut peur un instant, puis refocalisa sa pensée sur Douille et toutes les armes.
L'aube est un principe qui exacerbe l'énergie. Je veux comprendre jusqu'à l'excès mon désir de l'aube, mon besoin de l'aube. Je demande une autre bière. Quelqu'un me touche à l'épaule. Angela Parkins est là, alerte, vive, crue, et je suis si lente à comprendre combien sa présence m'exalte. Elle dit une banalité puis circule entre les tables. La musique est trop forte. Les trois femmes ont trouvé des partenaires. L'homme de la piscine est maintenant assis à une table avec deux hommes. La musique est trop forte. Rien n'est sensuel. Les corps s'allongent et font des ombres comme des cheveux dans le visage des filles, disposent de leur sourire basané. Tout est sensuel. Angela Parkins regarde dans ma direction, dessine dans l'air un mouvement circulaire avec sa main. Oui, comme si elle me faisait signe, puis elle pointe du doigt en direction de la piste de danse. La musique est trop forte. La musique est trop douce.
Lorsque deux mots sont identiques, il ne faut pas t'en formaliser outre mesure ou te croire lésé d'un choix. La simplicité est belle patience du sens. Maud Lorès éprouvait parfois le besoin de se répéter à voix haute quelques recommandations. Il arrivait même qu'elle interrompe son travail et que, les baguettes en l'air, elle s'adonne au beau milieu de sa chambre à de longues joutes oratoires. Les mots volaient haut, volaient bas, elle les attrapait, lançait, relançait.
Le corps d'Angela Parkins est fanatique, rempli d'urgence. Il bondit comme un animal fougueux, capricieux, voltige et plane éperdument, éperdu Angela Parkins. Il y a des yeux posés sur chacun de nos mouvements, de nos regards. La beauté est suspendue. La beauté qui précède la réalité. Angela Parkins chante passionnément, moitié lip-sync, moitié live, la bouche arrondie par des sons éclatés. Ses mains virevoltent au-dessus de nos têtes. La paume de nos mains. Parfois, sa main glisse sur mes hanches. Parfois, nos doigts acrobates et aériens se saisissent comme pour tourner le sens des sons au-dessus de nos têtes, tout autour de nous. Parfois, son regard, sa joue. Je ne connais pas vraiment Angela Parkins et voici pourtant nos corps rapprochés un instant, puis distants, lents et longs dans la distance de l'Amérique. Nous sommes inséparables et distantes en pleine éternité. Nous sommes le désert et l'évidence au coucher des ombres. Peut-être la nuit et la couleur de l'aube. Les femmes se sont rapprochées de nous. Elles ont l'air de s'amuser. La musique est trop forte. Angela Parkins m'offre à boire. The same. Puis je cesse d'exister. Elle parle, parle, part vers je ne sais où. Elle dit que ça recommence, parole, sentier, papillon, et qu'elle aime ça la lenteur obligée des mots. Elle dit que dans la détresse, tout est envahi par le son des mots, et qu'alors tout devient impossible à comprendre. Elle dit que ça explose dans sa tête et que tout est à recommencer comme un revers, un lobe dans l'espace du cerveau. Elle répète, le cerveau est fragile, mais les yeux, Mais les yeux, Mélanie. Elle dit qu'il ne faut pas renoncer. Que rien n'est impossible si la mémoire accomplit dans l'improbable la certitude qui en soi veille à l'horizon, à la beauté. Elle parle de l'attachement que nous avons pour certains mots et que ceux-ci sont comme de petites morts lentes dans la réalité concise.
Les mots étaient dans la bouche comme de petits noyaux, la partie la plus dure et la plus brillante. Une présence, un corps solide qu'il fallait, après un certain temps, rejeter en avançant la langue, comme pour une amorce de grimace. Puis, d'un souffle, projeter devant soi la partie invisible. Entre les dents, il ne restait alors que la chair et la saveur, partie comestible, une bonne denrée quotidienne. Mais un mot tout entier, on pouvait aussi le cracher.
Il est 20h30 et le bar est encore plein de clients. La musique s'empare de tout. Tout est fluide et lent dans les bras d'Angela Parkins. Le temps me manque pour comprendre. Il n'y a plus de temps. Le temps est entré en nous avec minutie comme un scalpel. Le temps nous oblige à la réalité. Le temps s'est glissé entre nos jambes. Chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule tient lieu de musique dans nos corps, absolument. Puis, le corps d'Angela Parkins remue lentement. Tout son corps est attiré vers le bas. Son corps est lourd entre mes bras. Mes bras sont lourds du corps d'Angela Parkins. Il n'y a plus de musique. La sueur d'Angela Parkins contre ma tempe. La sueur sur ma main. Angela, le silence est cru. Angela, un tout petit dessin sur la tempe, un tout petit trou, ocelle. Angela, nous dansons, yes? Angela Parkins n'a plus de hanches, plus d'épaules et de nuque. Elle se dissipe. Les yeux d'Angela, vite, les yeux! Il n'y a plus d'équilibre entre nous. Tout mon corps est devant le désastre. Plus un son. L'agitation tout autour comme dans un film muet. Au fond de la salle, il y a le regard impassible de l'homme long. Le désert est grand. Angela Parkins est allongée là, exposée à tous les regards. Angela se dissipe dans le noir et le blanc de la réalité. Que s'est-il passé? C'était pourtant un homme de génie. Of course, Melanie is 19.
L'obsession du vivant. Touchons à la nuit, disais-tu. Capable de fièvre et d'immensité, touchons à la nuit. Sans nous blesser.
La réalité, l'aube, la fureur dans l'aube et les galaxies, les policiers, la craie autour du corps d'Angela Parkins. Les clients n'ont rien vu. Je n'ai rien vu. Le désert est indescriptible. Le regard fond.
À cette heure tardive, où nommer est encore fonction de rêve et d'espoir, où la poésie sépare l'aube et les grands jets du jour, et où plusieurs fois des femmes s'en iront, invisibles et charnelles dans les récits, je sais que tout n'est pas dit, car entre la conversation urbaine et la tradition, il fait tant froid et vertige. Tout n'est pas dit, puisque c'est dans la matière volatile des larmes que s'installe cette étrange sueur de peur et de vrai qui nous emporte, comme si la vie pouvait soudain toucher ses métaphores.
Puis ce fut le mauve de l'aube, le désert et la route comme un profil sanglant. Il y a des mémoires pour creuser les mots sans souiller les tombes. Je ne peux tutoyer personne.